Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Reflet et La Presse. Au programme, bouger pour son cerveau, 5 choses que vous ne saviez pas sur la banane, la valeur de la révolution tranquille et grande colocation, grand bonheur. Bonne écoute.
Bouger pour son cerveau. Un texte de René Lapointe paru en mars 2023 dans Reflet. Pour rester alerte, il faut bouger, et ce, à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Notre cerveau est un organe, comme le foie, les poumons et les reins. Il a besoin d'oxygène et de nutriments pour bien fonctionner. En augmentant la circulation sanguine, l'exercice améliore l'oxygénation des neurones, ce qui garantit un bon approvisionnement en énergie, dont en glucose, le principal carburant du cerveau. Notre capacité d'apprentissage et notre concentration s'en trouvent renforcées, de même que notre mémoire et notre attention. L'activité physique stimule la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui influence les zones du cerveau, contrôlant l'humeur et qui est en déficit chez les personnes anxieuses et déprimées. Elle libère aussi des endorphines qui participent à la sensation de bien-être. De plus, elle réduit la fabrication de cortisol, la fameuse hormone du stress, qui, produite en excès, nuit à la santé du cerveau en inhibant la fabrication de neurones. En nous protégeant de certains risques de santé comme l'hypertension ou le diabète, l'activité physique permet aussi de préserver les fonctions cérébrales. En fait, s'entraîner régulièrement diminuerait de 30% à 40% ou plus le risque de souffrir d'Alzheimer. Ajoutez des exercices d'endurance à votre agenda 2 fois par semaine pour réduire de 50% le risque de démence et de 60% celui d'Alzheimer. Faire de l'activité physique est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos neurones. L'activité physique améliore la mémoire, l'attention, la vitesse de traitement de l'information et les fonctions exécutives, dont l'initiative, la planification et l'organisation des tâches. L'exercice favorise la sécrétion de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui est liée à l'attention, à la motivation et au plaisir. Pas besoin d'être un marathonien pour en bénéficier. Vous n'avez qu'à vous mettre à l'action chaque jour pendant 20 minutes et vous en ressentirez rapidement les bénéfices. Marcher, nager, danser et faire des étirements sont des exemples d'activités physiques accessibles. Mettez votre santé à l'agenda. Fixez-vous des moments quotidiens pour faire un peu d'exercice. Pourquoi vous priver de ce mieux-être? Prenez soin de vous, c'est accessible. C'était « Bouger pour son cerveau », un texte de René Lapointe, paru en mars 2023 dans Reflet.
Cinq choses que vous ne saviez pas sur la banane. Un texte de Laila Malouf, paru le 11 mars 2023 dans La Presse. Elle a beau venir de loin, la banane est l'un des fruits qui se retrouve le plus souvent dans notre panier d'épicerie. Le docteur en nutrition Hubert Cormier nous dévoile tous ses secrets, en plus de 80 recettes pour « bananomaniaque », dans son nouveau livre, complètement banane, paru chez Saint-Jean Éditeur. Voici cinq faits étonnants à découvrir. Il existe plus de 1000 variétés de bananes dans le monde. Eh oui! De la banane plantain à la banane rose, il en existe des sucrés, qu'on peut manger cru, et d'autres plus amidonnés, dont la texture rappelle plutôt la pomme de terre et qui doivent être mangées cuites. Hubert Cormier en répertorie 11 dans son livre, mais la Cavendish est sans conteste celle qu'on trouvera le plus facilement et en abondance dans toutes les épiceries. La peau de banane n'est pas dangereuse, sauf si on glisse dessus. Même si on a majoritairement le réflexe de l'acheter, la pelure de banane est entièrement comestible. L'auteur de « Complètement banane » a donc fait le pari de l'incorporer à ses purées, qu'il utilise ensuite comme base pour toutes ses recettes. En plus, une fois réduite en purée avec la chair en suivant sa technique de cuisson des bananes, la texture filandreuse de la peau devient imperceptible, précise-t-il. On épluche la banane à l'envers. On est nombreux à éplucher nos bananes par leur tige, mais on devrait plutôt se servir de l'autre bout du fruit en pinçant légèrement la pointe noire de la banane pour l'ouvrir. On évite ainsi de la briser tout en se débarrassant des filaments désagréables, en plus de pouvoir la tenir par la tige pour la manger. La purée de banane a beau être sucrée, elle ne contient pas assez de sucre. En effet, on pourrait facilement croire qu'ajouter du sucre dans une recette contenant des bananes est superflu, mais celui-ci aurait un super pouvoir qui en fait un ingrédient clé pour obtenir un pain aux bananes parfait. Sans sucre, le pain risque de s'émietter plus facilement, d'être sec et de ne pas avoir cette croûte colorée et croustillante qu'on aime tant. La congélation est l'ingrédient secret pour un pain aux bananes moelleux. Dès que le pain est refroidi et coupé en tranches, il vaut mieux le congeler sans tarder afin que sa texture devienne encore plus moelleuse, recommande Hubert Cormier dans son livre. Les tranches se décongèlent ensuite en une dizaine de minutes tout au plus. D'ailleurs, c'est le secret des tranches moelleuses servies dans un certain café dont le nom commence par un « S ». Et se termine par KS, nous apprend-il. C'était 5 choses que vous ne saviez pas sur la banane, un texte de Leila Malouf, paru le 11 mars 2023 dans La Presse.
La valeur de la révolution tranquille. Un texte de Martin Paquette, paru en mars 2023 dans Reflet. À l'instar du souvenir d'individus marquants ou d'événements remarquables, la mémoire de certaines périodes historiques possède le puissant potentiel de lutter contre l'indifférence au temps jadis. Ainsi, les Américains entretiennent un attachement certain aux années de leur guerre d'indépendance ou de leur guerre civile, les Français à celle de leur révolution ou de la libération. Au Québec, des périodes acquièrent également le même caractère mémoriel au regard des citoyens, celle de la Nouvelle-France, de la conquête ou encore de la crise économique des années 1930. La Révolution tranquille appartient à ce panthéon de la mémoire et, malgré les opinions divergentes, tous s'accordent sur son importance. Pourquoi lui accorde-t-on pareille valeur? D'abord, à cause des faits, des phénomènes et des événements qui l'ont distingué. De la mort de Maurice Duplessis le 7 septembre 1959 jusqu'à l'adoption du projet de loi 111 qui met fin à la grève des enseignants le 17 février 1983, les citoyens au Québec ont établi, chacun à leur façon, des balises temporelles. Ces balises modulent l'expérience collective à la manière des âges de la vie pour les individus. Certaines balises se situent dans la longue durée et sur un plan planétaire. À l'instar des autres sociétés du monde, celle du Québec connaît la sécularisation qui interroge les grandes religions organisées comme le catholicisme. La société québécoise constate les flux des grands mouvements migratoires internationaux qui oscillent de l'Europe vers d'autres bassins comme l'Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Elle enregistre les effets de l'urbanisation, de la croissance des banlieues et du développement des moyens de transport et de communication. D'autres phénomènes agissent sur une moyenne durée à une échelle canadienne et nord-américaine. Ainsi, les Québécois redéfinissent les critères de leur appartenance nationale, passant du Canada français au territoire du Québec. Parmi ces nouveaux critères, le statut public du français devient une valeur phare, d'où le rôle capital de la Charte de la langue française en 1977 et de la création d'un ministère québécois de l'immigration en 1968. Une autre valeur phare relève du primat de l'économie, une économie dont il importe de contrôler les ressources grâce à l'intervention énergique de l'État provincial. Les gouvernements de Jean Lesage à René Lévesque s'activent ainsi dans la mise en œuvre de cette politique économique, de la nationalisation de l'électricité en 1962 au Grand Barrage jusqu'au renforcement d'un entrepreneuriat québécois s'épanouissant à partir des années 1980. La dernière valeur phare est celle des droits. Ces droits sont civiques, comme le démontre la présence plus visible des femmes dans l'espace public, où elles promeuvent des causes leur tenant à cœur, de l'accès à l'emploi, à la contraception et à l'avortement, des garderies au régime matrimonial. Ces droits sont également politiques. Nous observons leur promotion par les multiples mouvements de mobilisation qui s'intéressent à de nombreux enjeux. Enjeux de l'aménagement du territoire engendré par les controverses du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, BAEQ, du parc Forion, de Mirabel, de l'injonction contre les travaux de la baie James ou de la guerre du saumon de la rivière Restigouche jusqu'aux enjeux liés à la question constitutionnelle avec le référendum de mai 1980. Ces droits sont aussi socio-économiques. Que ce soit par l'élargissement de la syndicalisation, comportant des moments forts comme les fronts communs, par la couverture élargie aux soins médicaux ou par la démocratisation du savoir sous l'impulsion de la commission Parent et de la réforme de l'éducation. Enfin, des balises marquent l'expérience individuelle à l'échelle de l'événement. Ces événements sont nombreux au cours de la Révolution tranquille. Certains sont sources de fierté, comme l'Expo 67, la Super Franco-Fête et les fêtes de la Saint-Jean. D'autres sont traumatiques, à l'instar de la crise d'octobre. D'autres, enfin, engendrent des sentiments ambivalents, comme les Jeux olympiques de Montréal. Nous le voyons, la valeur accordée à la Révolution tranquille repose d'abord sur ces balises d'ampleur variable qui incisent le cours du temps et fournissent des repères pour se situer collectivement. Elle s'assortit ensuite aux émotions que nous y injectons maintenant. La mémoire est le passé au présent. Le passé gagne en sens et en importance sous le regard de notre expérience actuelle, de nos passions et de nos détestations contemporaines, de nos croyances et de nos préférences présentes. Dès lors, certains sont critiques envers ces années, en insistant sur ses aspects litigieux et son héritage jugé pesant. Ceux-ci alimentent une mémoire repoussoire de la période, privilégiant ainsi la rupture du fil du temps. Soucieux de continuité, d'autres en retiennent plutôt les éléments positifs. Ils entretiennent une nostalgie de l'effervescence de ces moments. Ils y puisent des exemples pour l'action. Ils s'enorgueillissent des réalisations de cette époque. Ceux-là se réclament alors d'une mémoire filiation de la Révolution tranquille. Ils en acceptent l'héritage comme ressource du présent et garantie de l'avenir. Enfin, la valeur renvoie à ceux qui ont vécu ces années où l'État fut le garant du bien commun, où l'idéal de l'émancipation les animait. Cette humanité ardente, elle fonde la valeur de la Révolution tranquille. C'était « La valeur de la Révolution tranquille », un texte de Martin Paquette paru en mars 2023 dans Reflet. Grande colocation, grand bonheur. Un texte de Léa Carrier, paru le 18 mars 2023 dans la presse. Pour des raisons sociales ou économiques, des jeunes vivent à plusieurs sous le même toit, parfois même jusqu'à 7 personnes, et ils filent le parfait bonheur. Pour une vie plus collective, c'est un simple calcul mathématique. Plus on est fou, plus on rit, et moins on paye cher, s'exclame tout bonnement Nicolas. Une douce lumière enveloppe le salon, décoré avec bon goût. Entassé sur le sofa, il y a aussi Lisa May, Maya, Geoffroy, Marc-Éloi et Soya, le petit chat noir. La joyeuse bande nous reçoit dans son chaleureux logement situé au cœur du vieux Rosemont. Habiter en colocation est presque un passage obligé dans la vie d'un jeune adulte. Vivre à 5, 6 ou même 7 personnes sous le même toit, c'est plus surprenant. La presse a visité 2 grandes colocations pour voir comment s'y organise la vie et le ménage. Étudiante en action culturelle, Maya Rimbaud est la doyenne de la place. Elle a trouvé l'aubaine il y a 3 ans. Un appartement de 5 chambres bien situé à 1 995 $ par mois. Au fil du temps, les autres occupants ont intégré la colocation, attirés par la vie en communauté et le loyer à faible coût. Divisé par 5, la facture oscille entre 400 $ et 450 $ par mois, incluant le chauffage et l'Internet. Avec la crise du logement et l'inflation, les étudiants ne pourraient espérer mieux, surtout pour le quartier. Rosemont s'est gentrifié, les loyers sont devenus super chers. C'est sûr que je ne mettrai pas plus que ce prix-là dans un appart, note Maya. L'étudiante en psychologie, Lisa May Costé, abonde dans le même sens. C'est toujours un plus et je ne me verrai plus habiter seule et payer 800 $ à 1 000 $ par mois, soutient-elle. Mais vivre en commun n'est pas seulement une question d'argent. Plus que les factures, des colocs partagent des moments d'intimité, des amitiés. C'est comme vivre dans un perpétuel épisode de la sitcom Friends. Impossible de se sentir seul. Tu rentres, il y a quelqu'un sur le divan, on se raconte notre dating life, blague Nicolas. C'est un super moyen de connaître du monde et de s'intégrer. Quand tu ne connais rien ni personne, habiter avec du monde, c'est un catalyseur social. estime Marc-Éloi Robert, un étudiant français qui a immigré au Québec pendant la pandémie. Certes, ce mode de vie requiert des efforts et il faut des règles pour assurer un minimum d'harmonie. Ici, tout le monde doit participer au ménage, sans aucun doute la principale source de friction dans une colocation. Pour faciliter le partage des tâches, le groupe s'est inventé un système avec un tableau des corvées collé sur le frigo. Pour le reste, c'est du gros bon sens. On limite le bruit après 23 heures, on prévient lorsqu'on invite des amis à la maison. C'est un peu des règles informelles. Même quand on habitait en famille, on savait quand on dépassait les limites, souligne Lisa Maille. Le plus important, estime Maya, c'est la communication. On se parle beaucoup, parce que souvent les choses qu'on ne dit pas, ce sont les choses qui finissent par éclater, dit Maya Rimbaud. Un rêve de collectivité. Dans le chemin tout tracé qu'on leur dessine, les jeunes emménageraient seuls ou avec leurs partenaires après leurs études, prêts pour la vraie vie d'adulte. Ont-ils songé à la suite? Plus il vieillit, moins Nicolas ressent l'envie de vivre seul plus tard. De plus en plus, j'envisage la vie de jeune professionnel en colocation, confie l'étudiant en génie mécanique. La vie à plusieurs nous force à faire attention à l'autre. Elle nous enseigne la solidarité dans une société qui n'est plus très solidaire, nous apprend à se parler dans un monde qui ne s'écoute plus autant. J'aspire beaucoup à la vie en commun. Une colocation à plusieurs, c'est un tremplin vers des vies plus collectives, croit Maya. Et des vies plus heureuses, peut-être. 1022 $ Loyer moyen d'un appartement de deux chambres à Montréal en 2022. Source, Société canadienne d'hypothèques et de logements. 2,3% Taux d'inoccupation sur l'île de Montréal en 2022. Source, Société canadienne d'hypothèques et de logements. 5,4% Hausse enregistrée entre 2021 et 2022 pour un loyer de deux chambres à Montréal. Source, Société canadienne d'hypothèques et de logements. Vous écoutez Grande colocation, grand bonheur. Un texte de Léa Carrier paru le 18 mars 2023 dans la presse. Une seconde famille. Dans l'entrée de l'appartement, je compte une vingtaine de paires de chaussures, de toutes les pointures et de tous les styles. Pas de doute, je suis à la bonne adresse. 7 étudiants et jeunes travailleurs partagent ce charmant et spacieux appartement du plateau Mont-Royal, situé à quelques coins de rue du Parc Laurier. Les gens s'attendent toujours à ce qu'on dise que c'est l'horreur vivre à 7, alors qu'en fait, pas du tout. On s'entend juste trop bien, lance Chloé Giguet. Pour la petite histoire, Alexandre, Tom et Grégoire, tous des étudiants français, ont été les premiers à aménager après avoir déniché la perle rare sur un site de petites annonces en 2021. Les autres colocs, Maria, Chloé, Sarah et Noémie, sont arrivés plus tard de France, de Belgique et de Suisse. En plus d'avoir conservé son cachet d'époque, le bâtiment daterait des années 1920 selon le proprio. L'appartement est immense. Il compte 7 chambres, 3 toilettes, 2 frigos et une table de billard. Sans le chauffage, il en coûte entre 400 $ et 580 $ à ses locataires. Mais l'argent n'a rien à voir avec leur manière de vivre. Je n'ai jamais envisagé le fait d'habiter seul. Je me suis vraiment dit en arrivant ici que c'était le moyen pour rencontrer du monde, dit Sarah Louis. En quittant leur pays, les jeunes expatriés ont tout laissé derrière, mais ils ont trouvé une seconde famille entre ces murs. C'est important de recréer un petit cocon dans lequel tu peux te sentir bien quand tu es loin de chez toi, ajoute Sarah. Comme en famille, tout le monde mange ensemble le soir. Cuisiner pour 7 personnes exige du temps et un certain niveau d'organisation, mais ça a aussi ses avantages. Tu sais que tu peux aussi compter sur les autres quand t'as pas forcément le temps d'aller faire les courses et de cuisiner. Au final, ça t'enlève une charge mentale, explique Sarah. En septembre, la bande s'est acheté une mini-fourgonnette pour faire des excursions le week-end. Après un road trip à New York, elle a récemment visité l'île aux fesses à Drummondville, qui n'avait, à leur déception, rien à voir avec le nom. Ce qui est cool, c'est le fait qu'il y a une chaleur constante dans l'appart. T'arrives chez toi, il y a forcément quelqu'un qui est déjà là, dit Tom Marty. Bien entendu, il n'y a pas d'injonction à être tout le temps ensemble, et chacun a le droit d'avoir son espace aussi. Quand ils sentent le besoin de reconnecter, les 7 colocs mettent tous leurs matelas dans le salon et dorment côte à côte. C'est vrai, il y a beaucoup d'amour entre eux, mais ne vous faites pas d'idées, le concubinage est formellement interdit. « On touche pas aux colocs », plaisante Chloé. Au fond, est-ce que le besoin d'être constamment entouré ne cache pas aussi la peur d'être seul? Je pense qu'il y a pas mal d'angoisse. Je ne m'imagine pas arriver chez moi dans un appart tout éteint et me rendre compte que je suis tout seul, confie Tom. Pour Chloé, l'intérêt n'est simplement pas là. Je ne saurais pas vivre seul, mais ce n'est pas mon objectif, répond-elle. Je suis presque fière de ce qu'on vit et ça me fait trop plaisir de pouvoir le partager et de me dire que des gens vont peut-être changer leur vision de ce que c'est que de vivre à 7, conclut-elle. C'était « Grande colocation, grand bonheur », un texte de Léa Carrier paru le 18 mars 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayé et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.